Working Class Heroic Fantasy, chapitre 10. Piégé. Précédemment, Amélise a amené la compagnie à la fabrique Adabra, où est a priori cachée l'épée. Carmalière parvient à convaincre Barnes de rester avec la compagnie pour offrir un contrepoids à son impulsivité. Ils s'introduisent dans le bâtiment et trouvent la salle de l'épée. Malheureusement, ils se retrouvent à la merci d'un orc et de deux gobelins armés. « Clormax !» s'écria Barnes en reconnaissant l'un des deux gobelins.
« C'est Monsieur Clormax, pour vous, Musty. Vous avez entendu ? Les mains en l'air !»
Ils obtempérèrent. Barnes se demandait s'il était en train d'avoir une hallucination. Mais qu'est-ce que son patron pouvait bien faire ici ?«
La vie est bien faite, » dit Clormax. « Vous vous introduisez chez Adabra le jour de ma visite. » « Rendez-vous compte, ainsi je n'ai même pas besoin de vous convoquer dans mon bureau pour vous licencier. »«
Faites gaffe quand même, » répliqua Carmalière. Il est accompagné de deux représentants du syndicat majoritaire à Poutine Corp. Je serai vous, j'éviterai les déclarations à l'emporte-pièce qui pourraient jouer contre vous au Prudorc. Simple conseil. » Yel souriait, et Barnes se demandait bien pourquoi.
« Vous pensez sérieusement être en position de négocier ?»
Vous pensez sérieusement être en position de négocier, pesta Clormax.
Non, dit Carmalière, en secouant la tête. Comment négocier avec un patron suffisamment psychopathe pour en arriver à traverser le pays dans le seul but de harceler un employé?
Pardon,
s'écria le gobelin. Barnes n'en menait pas large. Il ignorait à quel jeu jouait Carmalière, et surtout, il ne voyait pas l'intérêt de provoquer la colère des trois créatures féroces qui les menaçaient avec des armes à feu.
« Vous pensez sérieusement que Monsieur Musty est suffisamment important pour que je me déplace pour lui ? Je suis ici à cause de vos bêtises, parce que vous avez obligé Monsieur Fulmiark à déplacer son épée. Bien sûr, je lui ai signifié qu'elle serait en sécurité dans nos locaux à Poutine Corp, mais il n'a... »«
Clormax !» tonna l'orc.
Il était immense, massif, un trait physique appuyé par sa voix gutturale et grinçante. Sous son élégant costume sur mesure, on devinait une bête de graisse et de muscles, un colosse qui toisait chacune des autres personnes présentes dans la pièce. Pour un orque d'un âge avancé, c'était un individu particulièrement imposant, avec des cheveux longs et grisonnants qui couraient sur ses six larges épaules. Clormax se tut instantanément. Ban s'aperçut qu'il lançait en coin des regards assassins au second gobelin.
« La police est en chemin, » continua l'orque. « Inutile de renseigner ces criminels sur nos affaires en cours. Suis-je bien clair ?»«
Bien sûr, monsieur Fulmiark, bien sûr. »
Clormax s'écrasait comme un vermisseau, ce qui avait presque le pouvoir de réjouir Barnes qui n'en menait pourtant pas large. Leur dernier espoir était Pod, toujours caché dans la caisse qui séparait Amélise, Carmalière et Barnes de leurs antagonistes. Qu'est-ce qu'un gnome enfermé dans une caisse en bois pouvait bien faire contre un orque géant et deux gobelins, tous les trois armés? La réponse vint quelques secondes après que Barnes se fût posé la question. Le couvercle de la caisse sauta brutalement, libérant Pod qui braquait le bâton qu'il avait volé dans le camion sur Fulmiark, Clormax et le second gobelin. La scène se passa comme au ralenti aux yeux de Barnes. Fulmiark et les deux gobelins eurent un sursaut et un moment d'incompréhension. Si ce moment avait été un peu plus court, ils auraient eu le temps d'appuyer sur leur gâchette et d'abattre Pod sur le champ. Malheureusement pour eux, lorsque le couvercle de la caisse retomba au sol, il était déjà trop tard. Il y eut un flash aveuglant et une sorte de demi-sphère de lumière jaillit subitement de l'extrémité du bâton que tenait Pod. Les trois assaillants furent projetés vers l'arrière, emportant sur leur passage un gros morceau du mur qui menait au couloir. Ils finirent leur course contre le mur opposé du couloir qui craqua et se déforma mais ne céda pas. Puis ils s'écroulèrent au sol, ils ne bougeaient plus. Pod était debout, le bras encore tendu, impressionné par les dégâts qu'il avait lui-même causés.
« Pod !» s'écria Mélise. « Tu savais ce que cette baguette faisait ?»«
Pas du tout, » dit-il, « mais je me suis dit que ça valait le coup de tenter. »
« Et si ça avait été une baguette de soins ou de génération de confettis ?»
J'imagine que j'aurais eu une mort parfaitement ridicule. J'avoue que je n'y ai pas pensé.
Amélise avait l'air à la fois affligée par la légèreté avec laquelle le gnome était passé à l'attaque et heureuse d'être tirée d'affaire au moins temporairement. « À première vue, dit Carmalière, il s'agissait d'un bâton de champ de force. Tu nous as tiré d'un bien mauvais papaude. Je suggère maintenant que nous fuyions avant que ces détestables personnes ne reviennent à elle. » « Et l'épée ? » demanda Amélise. « Elle n'est de toute évidence pas là. La sécurité du site était sans doute due à la venue de ces trois pontes. Ou alors, c'était un simple piège, et nous avons foncé dedans, tête baissée. « En tout cas, s'énerve Urban, nous voilà encore dans de beaux draps. Vous savez qu'on n'aura pas éternellement de la chance. On va finir par se faire tuer avec vos plans foireux. En plus, je... Qu'est-ce que vous faites, Carmalière ?»
Le magicien s'était penché sur les corps des gobelins et avait ramassé leurs armes. Yel entendait une à Barne.
« Vous déconnez, je touche pas à ça !»«
Tu dois pouvoir te défendre. Amélise et moi avons quelques sorts en réserve, mais Pod et toi êtes désarmés. Prends ça !»«
Il n'en est pas question !»«
De toute façon, dit Pod en se saisissant d'un des pistolets, on doit les désarmer. Imagine qu'ils se réveillent et nous tirent dans le dos !»«
Très bien !» fit Barne, en attrapant à son tour l'une des armes. « Mais je ne m'en servirai pas !»
« Super !» dit Amélise. « Maintenant que nous avons tous réglé vos petits problèmes de conscience, est-ce qu'on pourrait se tirer et vite ?»
Ils ne se firent pas prier et prirent la direction de la cage d'escalier. Le couloir était jonché de plâtre et de débris, l'air troublé par de la poussière en suspension. Soudain, deux hommes surgirent au bout du couloir en face d'eux.
« Main en l'air !»
lança l'un d'entre eux en braquant l'arme vers eux.
« À terre !»
cria Carmélien en retour. Yel et le reste de la compagnie se jetèrent vers l'arrière, juste à côté des corps étendus des deux gobelins et deux fulmiarques. Des coups de feu claquèrent, mais le second homme cria aussitôt.
« Arrête ! Le patron est au sol ! On risque de le toucher !»
Les compagnons se relevèrent à moitié et coururent dans la direction opposée, tête baissée, protégée par les corps massifs de fulmiarques qui bloquaient le passage. Des hommes s'engagèrent dans le couloir en courant à leur tour, et Pod tira quelques coups de feu dans leur direction.
« Pod !» s'écria Barne scandalisé.
« Légitime défense !»
répondit celui-ci. Aucune des balles n'atteignit les deux gardiens. Pod avait tiré en l'air vers le plafond. Volontairement ou non, Barne l'ignorait. Le bout du couloir, qu'ils atteignirent rapidement, ne débouchait sur aucune autre cage d'escalier. C'était un cul-de-sac. Il y avait juste une fenêtre d'où ils ne pouvaient s'enfuir, la hauteur étant trop importante.
« Je peux emporter Pod !» dit Amélise. « Mais vous deux, vous êtes trop lourds, et on n'a pas le temps pour un sort. »«
Allez-y, » dit Carmalière, « on va se débrouiller. »
La fée eut un instant d'hésitation, mais les gardes n'allaient pas tarder à dépasser les corps des gobelins et à pouvoir leur tirer dessus sans limite. Elle attrapa Pod et s'envola par la fenêtre. Barne et Carmalière étaient seuls.
« On va se débrouiller ?» s'écria Barne. « Mais comment ?»«
Le monte-charge !» répondit la magicienne.
Yel indiqua une petite trappe dans le mur avec un panneau de contrôle sur le côté. La porte était ouverte et donnait sur un habitacle pas plus haut que le tiers d'un ascenseur ordinaire. Barne se glissa dedans au moment où de nouveaux coups de feu claquaient, suivis par Carmalière. Ils avaient à peine assez de place pour tenir tous les deux et étaient compressés de toutes parts. Carmalière parvint à passer une main à l'extérieur et à appuyer sur le gros bouton rouge sur le panneau de commande. La porte se ferma d'un coup sec et l'habitacle, plongé dans le noir le plus total, fonça vers le bas. Barne eut un haut le cœur. Le mécanisme n'était pas fait pour transporter des êtres vivants et était bien plus raide que celui d'un ascenseur. Lorsque la lumière s'infiltra à nouveau dans le monte-charge, Barne remarqua qu'ils étaient de retour au rez-de-chaussée, dans le grand hall de la chaîne de production. Ils tombèrent nez à nez avec un employé nain, fort surpris de découvrir des humains dans le monte-charge dont il avait la garde. Le pauvre tomba à la renverse lorsque Carmalière et Barne surgirent hors de l'habitacle et partirent au pas de course en le bousculant au passage. Les employés continuaient leurs travaux sans prêter attention aux deux fugitifs qui traversaient l'usine.
« Où est-ce qu'on va ?» demanda Barne en talonnant Carmalière. « Au parking, il faut qu'on file d'ici, et vite, ce sera plus simple à bord d'un véhicule. »
Arrivés à mi-chemin entre le monte-charge et la porte qui menait à l'escalier du parking, ils entendirent un cri.
« Halt !»
Barne tourna la tête, imité par tous les ouvriers soudain tirés de leur concentration. Leurs deux assaillants humains étaient descendus par les escaliers à l'autre extrémité de la salle. Voyant que ni Carmalière ni Barne n'obéissaient à leur injonction, ils ouvrirent le feu. À cette distance, même un excellent tireur aurait eu de la chance de faire mouche. Et les hommes étaient de piètres tireurs.
les balles se logèrent dans le mur du fond, à plusieurs mètres de Barnes et Kermalière. Il y eut un tonnerre de cris paniqués parmi les ouvriers, choqués par cette soudaine fusillade. Certains s'accroupirent ou se couchèrent au sol. D'autres coururent se mettre à l'abri. « Les fumiers !» s'écria Barnes. Ils ne voulaient pas prendre le risque que leur patron prenne une balle perdue, mais par contre, tirer dans une salle grouillante d'ouvriers, aucun problème. Ça t'étonne réellement ? Par ici ! Kermalière longea l'un des tapis roulants sur lequel voyageaient des rangées d'objets magiques. Barnes le suivit, accroupi pour rester à l'abri des balles. Les ouvriers qui couraient dans tous les sens les remarquaient à peine.
« Plus que quelques mètres !» dit Kermalière. « Couvre-moi !»«
Quoi ?»«
Tire dans leur direction pendant que je traverse à découvert !»
Avant que Barnes n'ait assimilé ce que Yel venait de dire, Kermalière était en train de courir vers un autre tapis roulant. Barnes poussa un juron et, levant la tête, aperçut les deux gardes qui tendaient leurs armes vers Kermalière. Il braqua la sienne en l'orientant bien au-dessus de leur tête et fit feu de nombreuses fois. Il les manqua de très loin, mais c'était bien son but, même s'il ne s'attendait pas à ce que le recul de l'arme ne le fasse dévier autant vers le haut. La manœuvre était réussie. Les deux hommes s'étaient mis à couvert et Kermalière avait atteint sans encombre un endroit où Yel était à couvert. Barnes envoya glisser l'arme sur le sol vers le magicien qui l'attrapa.
« Prêt ?» demanda Kermalière.
Barnes opina du chef et s'élança à son tour. Il vit Kermalière se relever, pointer son arme vers les gardes et... rien. La magicienne avait appuyé sur la gâchette, mais rien ne s'était passé. Lorsque Barnes comprit qu'il avait vidé le chargeur sans le vouloir, des coups de feu retentirent. Il poussa un cri de douleur et s'effondra sur le sol de tout son long. Tremblant, il comprima son épaule de la main. Il saignait abondamment. Le visage contre le sol, il ne voyait plus ce qui se passait autour de lui et n'avait plus vraiment conscience du monde qui l'entourait. La douleur paralysait son cerveau et une seule pensée parvenait à s'y former. Il allait mourir, et cette mort était imminente. Les bruits de pas précipités des gardes vers lui résonnaient dans le sol de béton froid sur lequel sa joue était pressée. En ouvrant les yeux, il les aperçut, flous, deux agents de l'Apocalypse se ruant sur un pitoyable employé de bureau désarmé qui n'aurait jamais dû quitter la tranquillité de son ennuyeux boulot.
« Il est armé, achève-le » entendit-il l'un des deux gardes crier.
Il regarda le second garde lever le bras vers son visage et appuyer sur la détente. Le coup partit. Et Barnes ne sentit rien. D'ailleurs, il ne voyait plus le canon. Devant lui, une silhouette le séparait des deux gardes.
Kermalière !
Le magicien s'était jeté en avant et s'était interposé entre Barnes et les balles qui le destinaient à une mort certaine. Le sacrifice de la magicienne fit l'effet d'un choc électrique à Barnes qui se redressa en sursaut comme temporairement insensibilisé à la douleur déchirante de son épaule. Pourtant, Kermalière était toujours debout. Yel se tenait d'ailleurs bien droite, les bras écartés, tendus sur les côtés. Les coups de feu qui s'enchaînaient ne lui faisaient aucun effet. En se relevant, Barnes comprit. Juste devant Kermalière, une sorte de mur de lumière s'était élevé. Les balles des gardes, au lieu d'atteindre le magicien, se brisaient sur le mur de lumière et retombaient en poussière au sol. Kermalière avait, au dernier moment, jeté ce sort de défense et avait sauvé la vie de Barnes. Celui-ci s'approcha et contempla le visage de la magicienne, plus froncé qu'il ne l'avait jamais vu. La mâchoire si serrée qu'elle semblait prête à exploser. Il était évident que ce mur de lumière nécessitait une dépense d'énergie et une concentration hors du commun. Barnes sentait bien que Kermalière ne tiendrait pas longtemps. Lorsque les deux gardes eurent vidé leur chargeur, Kermalière laissa tomber ses bras le long de son corps. Le mur de lumière se dissipa et le magicien tomba évanoui.
« Non !»
Barnes attrapa la magicienne dans sa chute et réussit à l'amortir quelque peu. La balle logée dans son épaule lui rappelant soudain sa présence avec intensité. Les deux hommes eurent un sourire satisfait et fouillèrent dans leur poche intérieure à la recherche de chargeurs de rechange. Le geste de Kermalière avait été héroïque. Mais il n'avait fait que retarder l'inévitable. Pour la deuxième fois en quelques secondes, alors que Barnes s'imaginait déjà mort, une aide inespérée arriva. L'une des grandes vitres teintées qui offrait de la lumière aux ouvriers explosa en un million de morceaux de verre, comme si un boulet de canon venait de la traverser. Ce boulet de canon avait de grandes ailes de libellule et les cheveux bleus. Amélis fonça sur les deux hommes et passa entre eux les poings en avant, ils les reçurent en plein menton. Tournoyèrent en arrière d'une manière assez ridicule et atterrèrent au sol comme deux pantins désarticulés. Barnes ignorait s'ils étaient morts ou simplement sonnés, mais cette fois, il s'en fichait.
Amélis fit un looping et revint se poser auprès de Carmalière et de Barnes. Celui-ci se rendit compte que Pod était de retour également. Il était passé par le trou qui remplaçait désormais la baie vitrée réduite en poussière par l'entrée fracassante d'Amélis.
« Vous n'auriez pas dû revenir !» murmura Barnes.
« Bah tiens, » dit Amélis, « aide-moi plutôt à soulever Carmalière au lieu de raconter n'importe quoi !»
L'usine était pratiquement déserte. La plupart des ouvriers avaient fui le bâtiment au moment de la fusillade. Il en restait probablement quelques-uns cachés dans les coins, mais ils étaient suffisamment enterrés pour ne pas être vus. Les quatre compagnons se levèrent et avancèrent tant bien que mal. Barnes maintenant Carmalière avec l'aide d'Amélise grâce à son épaule valide, Pod soutenant quant à lui le côté blessé de Barnes. Ils atteignirent la cage d'escalier qui menait au parking en quelques secondes et descendirent avec difficulté en essayant de ne pas trébucher les uns sur les autres. Le parking était heureusement tout aussi désert. Amélise indiqua une camionnette d'un signe de tête.
« Allongeons Carmalière à l'arrière !»
Ils ouvrirent la porte coulissante sur le côté et chargèrent le magicien, toujours inconscient. « Pod !» fit Amélise. « Reste avec lui et préviens-moi s'il se réveille. Barnes, à l'avant avec moi, je conduis !» Ils montèrent dans la cabine. Barnes gardait la main fermement agrippée à son épaule.
« C'est une camionnette pour nain !» remarqua Amélise. « Tu sauras la conduire ?» demanda Barnes.
Il n'y a pas de pédale, tout se gère avec les mains. Ça ne va pas être simple, hein, mais je vais faire de mon mieux.
Tu sais faire le coup des fils pour démarrer ?
Non, mais je suis une fée.
J'imagine que tu as une sorte de démarrage de camionnette diesel avec direction assistée sous la main.
Heureuse de voir que la balle n'a pas touché ton sens de l'humour. Je peux agir sur l'électricité, oui.
Elle posa la main sur le tableau de bord, le moteur crachota et se mit en marche dans un rugissement.
Bravo ! S'exclama Barnes.
Alors là, je...
Ah !
La portière du côté passager s'était ouverte à la volée et Barnes avait ressenti une immense douleur dans sa blessure à l'épaule. À côté de lui, l'ouvrière naine qui les avait interpellés un peu plus tôt, armée d'une barre à mine, menaçait de le frapper à nouveau.
« Sortez tout de suite de ce van !»
s'écria la naine, levant la barre à mine au-dessus de sa tête.
« Ah ! D'accord, d'accord !»
fit Barnes qui redoutait un nouveau coup. Il descendit tant bien que mal et tomba à genoux au sol, tétanisé par la douleur. Le moteur de la camionnette ronronnait toujours, et l'autoradio branché sur une chaîne d'information diffusait les dernières nouvelles de la terre de Grillec. Toujours à la recherche des trois autres présumés terroristes, après l'interpellation cet après-midi de Milia Puili, une institutrice elfe radicalisée ayant participé à...
« C'est vous !» dit l'ouvrière. « Les terroristes !»
« Je vous en prie, » dit Amélise, qui était toujours assise sur le siège conducteur. « Calmez-vous, nous ne sommes pas des terroristes, simplement des militants pris au cœur d'une gigantesque erreur judiciaire. »«
Erreur judiciaire ? Et le barouf de la bibliothèque, alors ? Et les coups de pétard dans mon usine ?
Je sais, les apparences sont contre nous, mais par pitié, laissez-nous vous expliquer. »«
Il n'y a rien à expliquer, j'appelle les flics !»
Elle avait extrait un téléphone portable de sa poche. Barnes leva la main vers elle, mais elle fit un pas en arrière en levant à nouveau sa barre à mine. Barnes recula à son tour en se protégeant le visage entre les bras. Alors que toute la terre de Grillec était soudée derrière la traque des présumés terroristes, l'Union Sacrée se voit fragilisée par ces dernières révélations. Barnes releva la tête timidement. Il aperçut que le discours à leur égard dans les médias avait légèrement changé. Ils étaient maintenant des terroristes présumés seulement. L'ouvrière avait toujours le téléphone en main, mais n'avait pas bougé, comme si elle aussi attendait la suite. Les bandes des caméras de surveillance qui ont fuité sur Internet montrent, je le rappelle, les deux gardiens gobelins, décédés depuis, tirer sans sommation sur les quatre suspects, alors dans une position non offensive, ce qui met à mal les accusations de la BNPO sur le caractère terroriste des événements. Une lueur d'espoir passa sur le visage de Barnes.
On avait diffusé les bandes.
Tout le monde avait pu voir ce qui s'était réellement passé. Tout le monde avait vu que la compagnie avait d'abord été la cible d'une attaque violente et disproportionnée.
Je tiens à apporter une note discordante à ce joli récit de pauvres visiteurs innocents,
dit une voix dans la radio que Barnes reconnut comme étant celle de Ruf Torkan, le directeur de la BNPO.
Il est bien commode de ne regarder que la partie des vidéos qui vous intéresse, mais le début de l'enregistrement montre que ces personnes, membres d'un syndicat radical d'extrême-gauche, je le rappelle, avaient volé des documents et étaient en fuite.
Tout de même, Ruf Torkan, ne trouvez-vous pas la réponse disproportionnée ? Répondre à un vol de papier par des tirs sans sommation ?
Au-delà de la légalité plus que douteuse de la chose, cela semble... Écoutez, il y a une ligne et elle est claire. Respectez la loi et vous ne risquez rien. Passez cette ligne et vous en subirez les conséquences. Le vol d'archives classifiées est un crime grave. Et nous avons le devoir, vis-à-vis des citoyens, de protéger ces documents qui... Vous voyez, dit Amélise, nous sommes innocents.
La ferme, trancha l'ouvrière naine. Vous êtes des voleurs. Puis j'ai failli me prendre une balle tout à l'heure.
Mais c'est nous qui nous sommes fait tirer dessus, dit Amélise. Nous sommes les victimes ici.
Lui, je l'ai vu tirer,
dit l'ouvrière en agitant sa barre de fer vers Barnes.
Puis après tout, c'est pas mes affaires, ça. Si vous êtes si innocent, pourrez le dire à la police.
La partie était bien mal engagée. L'ouvrière semblait particulièrement remontée et Barnes n'était pas en état d'assurer sa défense. La porte coulissante de la camionnette s'ouvrit pour découvrir un pod surpris par la scène qu'il découvrait. La naine, qui ne s'attendait pas à ce que quelqu'un soit caché là, leva sa barbe à mine dans une attitude de défense face au gnome.
« Elle a... pas bougé le golo !»
Golo était un mot d'argot nain pour désigner les gnomes. Pod décrocha en hâte le bâton magique qu'il portait toujours à la ceinture et le pointa vers la naine. Celle-ci eut un mouvement de recul mais se ravisa.
« Peux pointer ça où tu veux, » fit-elle. « Mais l'usager, ton truc !»«
Usager ?» dit Pod sans comprendre.
« C'est jetable, ça ne sert qu'une fois. Celui-là a déjà servi, ça se voit. »
Pod, qui avait sans aucun doute essayé d'activer l'objet, fut bien obligé de reconnaître qu'elle avait raison et laissa piteusement tomber le bâton.
« Très bien !» dit une voix de gobelin sur le côté. « Maintenant que cette joyeuse compagnie est désarmée, vous allez tous gentiment vous rendre. »
Glormax venait de faire irruption dans le parking. Ses vêtements étaient en lambeaux et il avait le visage couvert de plâtre. Il boitait un peu, mais il était debout, apparemment toujours aussi déterminé, et pointait un pistolet vers Barnes.
Quand Fulmiarc aura émergé et aura appris que c'est moi, Glormax, qui vous ai mis la main dessus, nul doute qu'il me donnera le contrat pour l'épée d'émeute, jubilait-il. Main en l'air, Busty.
Barnes n'avait pas la force de lever les bras et jeta un regard de défi à Glormax. Certes, il était déjà à terre, plus bas que terre même, mais il se le jura instantanément. Il ne lui ferait pas le plaisir de s'écraser un peu plus devant lui. Cette époque était révolue, et Barnes était allé trop loin pour se retourner sagement à son rôle de paillasson.
« J'allais appeler la police !» signala l'ouvrière à Glormax en agitant son téléphone. « La ferme, naine !»
Glormax avait craché le mot « naine » comme une insulte, et Barnes, comme l'ouvrière, comprit immédiatement avec quel dégoût le gobelin considérait cette espèce. Les nains étaient de manière générale le peuple victime du racisme le plus violent et décomplexé au sein de la terre des Grilecs. Ils étaient souvent considérés comme une peuplade inférieure, aux coutumes démodées, voire barbares. Bien sûr, il n'était jamais de bon ton d'affirmer des convictions racistes frontalement. Néanmoins, le racisme ordinaire transpirait dans les discours et des actes de bon nombre de citoyens dans la terre de Grilec. Glormax, lui, n'était pas du genre à avoir des complexes à ce sujet. Il s'avança sans prêter attention à l'ouvrière qui avait baissé les bras et le dévisageait maintenant avec une expression d'écœurement sur le visage.
« Musty, vous êtes bien à votre place, misérable créature rampante. C'en est terminé de votre pitoyable croisade contre vos supérieurs. Vous avez bien compris ?»
Barnes soutint son regard depuis sa position basse, essayant de ne pas montrer sa souffrance.
« Pas bien, non, » grogna-t-il. « Vous pouvez me réexpliquer ?» « Vous articulez mal, je n'ai pas tout saisi. On vous l'a déjà dit que vous articuliez mal ?»
Glormax eut un rictus qui lui tordit le visage d'une hideuse manière. Il n'y avait aucun intérêt à le brocarder ainsi, mais Barnes comprenait soudain pourquoi Carmalière s'était aussi moqué de Glormax un peu plus tôt. Il y prit un réel plaisir. D'une certaine manière, il se sentit revigoré d'avoir tenu tête à ce salopard, même juste une petite seconde, même dans des circonstances aussi désespérées. Il réussit, non sans effort, à se remettre sur ses pieds. Debout, il était légèrement plus grand que Glormax, et c'était maintenant lui qui le regardait de haut. Cependant, le gobelin avait toujours l'ascendant, principalement parce que le canon de son arme était pointé sur le visage de Barnes.
« Vous savez, grâce à le gobelin, je vous ai toujours méprisé. »
Barnes se surprit lui-même en laissant échapper un petit rire parfaitement spontané. Le gobelin poussa un ricanement.
« Oui, » dit-il. « Bien sûr que vous le savez, parce que vous savez que vous êtes méprisable. Pourtant, jamais je n'aurais imaginé que vous iriez jusqu'à vous sacoquiner avec toute cette racaille. »
Il avait agité son arme vers Pod, debout à l'intérieur du camion, avec Carmalière toujours inconscient à ses pieds, et Amélis qui observait la scène impuissante depuis le siège conducteur. La suite se passa en un éclair. L'ouvrière se jeta en avant et assena un violent coup de baramine à Glormax. Elle ne put atteindre la tête, mais le gobelin reçut l'arme en plein milieu du dos. Il poussa une exclamation de surprise et de douleur et tomba à genoux. Alors qu'il se retournait, son arme pointée avec la ferme intention d'abattre immédiatement celle qui avait osé poser la main sur lui, Barne, sans réfléchir, lui envoya un coup de poing rageur en plein visage. Glormax s'affala sur le sol, inconscient pour la seconde fois en quelques heures, et Barne, qui avait utilisé son bras blessé, poussa un hurlement qui résonna dans tout le parking. Il y eut ensuite un moment de flottement. La naine avait les yeux écarquillés, comme si elle se rendait soudain compte de ce qu'elle venait de faire. Barne compressait la blessure de son épaule qui saignait de plus belle. Amélis, une fois le choc passé, eut un sourire et dit à la naine « Eh bien, merci du coup de main !»